Les As de la CoPro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété. Présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission été 2024, les As de la CoPro. Désolé pour cette petite voix un peu enrouée. Je reçois aujourd'hui, mes experts, les As de la CoPro. Alors, Sabrina nous manque aujourd'hui, elle a eu un petit empêchement hier de dernière minute. Bon, il y a beaucoup de virus qui traînent aujourd'hui, vous voyez, j'en suis la preuve. Mais bon, alors je suis heureux de recevoir à nouveau Mathieu Mialard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Mathieu Mialaret, directeur métier ADB Syndic chez Foncia. Alexis De Coster, bonjour Alexis.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Alexis, toujours responsable métier ADB Syndic chez Crédit Agricole Services Immobiliers, Cassim. Et Pierre-Edouard Lagrelais, bonjour Pierre-Edouard.
Bonjour Gilles, bonjour
Pierre,
à tous.
Pierre-Edouard, avocat au barreau de Paris et au barreau de Bordeaux. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire une émission spéciale loi habitat dégradé. Alors c'est son petit nom, hein, son diminutif. Le nom est beaucoup plus long. Je le connais même pas par cœur, mais on va l'appeler comme ça. Dite habitat dégradé du 9 avril 2024. Il y a des nouveautés concernant la copropriété, la pratique de la copropriété, et on va passer en revue aujourd'hui ces nouveautés. Il y en a 7 hein, à peu près, mais c'est les 7 les plus intéressantes là qu'on va évoquer aujourd'hui pour information, hein, pédagogie, et puis derrière un petit peu de débat en pratique, quelles vont être les implications et les difficultés, et est-ce que ces nouveautés sont pertinentes ou pas. Donc on va attaquer tout de suite avec la séquence numéro 1, le point juridique.
Les As de la CoPro, le point juridique.
Première nouveauté, la LRE d'office. La lettre recommandée d'office. Alors, ça veut dire quoi? Bon, là, je le lance comme un slogan. Ça veut dire qu'on a inversé la règle. Avant, c'était pour les convocations, les mises en demeure, enfin, tout ce qui était notification, courrier, papier et sur demande express par lettre recommandée électronique. Aujourd'hui, on a inversé la règle. Mais on a besoin d'en savoir un petit peu plus quand même. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, d'abord, je commence par dire que c'est une excellente mesure qui va faire rentrer un peu plus le droit de la copropriété dans le 21e siècle. Vous l'avez dit, Gilles, jusqu'à maintenant, le principe, c'était que les copropriétaires, ou plutôt le syndic, devaient envoyer les notifications. Alors, notification, c'est essentiellement les convocations d'AG, le procès verbal de l'Assemblée générale lorsqu'il doit être notifié, les mises en demeure en cas d'impayé de charge. Le principe, c'était que le syndic devait envoyer les notifications par courrier, papier, recommandé. Et effectivement, il y avait une dérogation qui permettait d'utiliser, alors non pas la lettre recommandée électronique, mais un procédé de notification électronique, on y reviendra en 2 minutes parce que c'est important, sur consentement express du copropriétaire. Et là, donc, la loi vient mettre sur le même plan, finalement, le papier et la notification électronique. C'est-à-dire que les deux, par principe, sont valables, sauf si le copropriétaire demande expressément à rester au papier. Donc, inversion, hein. Avant, il fallait un accord express pour qu'on puisse utiliser la notification électronique. Et maintenant, il faut une demande express du copropriétaire s'il souhaite rester au papier. Juste la petite distinction, hein, la lettre recommandée électronique, c'est un format de notification électronique, certaines modalités très encadrées et assez inadaptées aux personnes physiques, hein, parce que c'est assez compliqué. Il y a des règles d'identification du destinataire un peu complexes. Il faut prouver son identité quelquefois de manière un peu rocambolesque. Et puis surtout, la LRE interdit d'indiquer qui est l'expéditeur, la personne qui notifie. Donc c'est anonyme comme un courrier recommandé. Ce qui fait qu'en matière de copro, quand les copropriétaires reçoivent un mail, ils ne savent pas qui c'est, qui l'envoie. C'était un obstacle en fait, au développement de la notification électronique. Et je ne sais pas si vous en souvenez sûrement, Gilles, en 2020, un décret a permis d'utiliser en matière de copropriété un procédé de notification plus simple qui permettait d'indiquer qui est l'expéditeur et l'objet de l'envoi avec des règles de traçabilité,
d'inviolabilité, etc. Oui, parce que sinon le copropriétaire le prend pour un spam.
Oui, sinon le copropriétaire le prenait pour un spam. Voilà, donc on a un procédé de notification électronique qui peut être utilisé comme alternative à la LRE, qui est utilisé par tous les syndics aujourd'hui, et qui simplifie ce système de notification électronique. Et voilà. Et maintenant, effectivement, le fait qu'on puisse, sans accord express du copropriétaire, l'utiliser, va apporter, va complètement démocratiser cette mesure, parce que la plupart des copropriétaires, sans y être opposés, ne faisaient pas jusqu'à maintenant la démarche d'adhérer.
Oui, parce que je sais pas chez vous, chez Foncia, mais on a des statistiques sur le nombre de copropriétaires qui avaient adhéré à la LRE, parce que dans certains cabinets, on parle de 15%, 20%.
Ouais, alors chez nous, on a du mal. Alors, ça dépend des cabinets, ça dépend aussi, des démarches d'incitation qui sont mises en œuvre. Mais on va dire qu'en moyenne, on plafonne à 25%, alors qu'on a au moins 80% d'adresses mail des copropriétaires. Donc voilà, alors on va voir ces 25% étaient un vrai rejet de la notification électronique, ou comme on le pense, tout simplement le fait que les démarches n'étaient pas faites, parce que les copropriétaires ont déjà tellement de démarches à faire au quotidien qu'ils ne prenaient pas le temps pour ça. Voilà, nous on pense que la plupart des copropriétaires y sont favorables, ça va leur éviter d'aller chercher un recommandé à la poste. Il n'y a qu'à voir le nombre croissant de plis non réclamés, de convocations qu'on imprime, qu'on envoie et qui reviennent parce que non réclamés à la poste. Un simple mail, on clique, on a sa convocation. Et puis je le dis, un des effets très positifs, c'est que la notification électronique, elle coûte à peu près 1 à 2 euros. Donc allez, si on dit 2 euros pour la convocation, 2 euros pour le procès verbal, 4 euros par an et par copropriétaire, là où en affranchissement papier, on est minimum à 15 euros entre la convocation et le PV. Donc 10 euros d'économie par an et par copropriétaire, vous multipliez ça par 10 millions de copropriétaires, ça fait 100 millions d'euros d'économiser pour les syndicats de copropriétaires.
Ça fait aussi des économies pour les syndics, puisqu'on on économise sur les frais de photocopie, puisque les frais de photocopie, je rappelle, doivent être pris en charge par le syndic. Donc là, on économise aussi. Tout le monde économise.
Oui, non, mais vous avez entièrement raison. Ça fait des économies pour le syndic. Malheureusement, pas aussi importantes que pour le syndicat des copropriétaires. On l'estime entre 1 et 2 euros par an et par copropriétaire, ce qui n'est pas négligeable. Mais surtout, ça va faire une simplification de l'envoi des assemblées générales, des convocations, qui jusqu'à maintenant nécessitaient l'impression de millions de feuilles, une remise en poste, le respect des délais conditionnés à la diligence du facteur pour distribuer tous les plis. Et on sait que les prestations de la poste, et c'est bien logique.
On évite l'aléa de la notification hors délai.
On
sécurise un peu plus les assemblées générales.
Tous les syndics le savent, mais depuis le 1er janvier 2024, la poste n'a plus l'obligation tous les jours de délivrer les recommandés. C'est un jour sur deux maintenant. Les délais augmentent. Ça pose plusieurs questions.
Oui, effectivement, j'allais vous demander, Alexis. Je rappelle pour nos auditeurs que c'est la disposition se trouve à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965. En pratique, alors cet article dit aussi que le syndic, bien sûr, doit informer suffisamment à l'avance les copropriétaires de cette nouvelle disposition. Donc les syndics sont invités et vont tous le faire, bien sûr, ce courrier informatif, ce courrier circulaire pour informer les copropriétaires que désormais les convocations PV, mises en demeure, seront adressées en LRE et qu'ils ont la possibilité, sur demande, de rester au papier. En pratique, il y a l'adresse mail, Alexis. Quand c'est au papier, on envoie au domicile. Domicile, c'est une notion juridique.
Dernier domicile connu,
s'il y a un changement. Là, on utilise quelle adresse mail? Celle qu'on a dans nos fichiers?
Alors ça, c'est une vraie difficulté, parce que les adresses mail, elles sont personnelles à chaque individu. On a rarement, alors peut-être que ça existe, on a rarement des foyers, je pense, qui créent un mail commun, monsieur et madame, pour recevoir sous format dématérialisé tous les éléments relatifs à leur
logement. Oui, c'est l'adresse de monsieur et l'adresse de madame.
Donc effectivement, c'est une adresse personnelle.
On ne peut pas faire deux LRE.
Alors, on pourrait envoyer potentiellement deux LRE, mais après, c'est des problématiques de techniques, informatiques, d'éditeurs de logiciels. On a un vrai sujet de vérification des mails qui nous sont, qui sont dans nos bases de données. Alors déjà aussi quand on les a, parce que alors de plus en plus on remplit bien nos bases de données, mais on a encore beaucoup de travail, je pense, de fiabilisation de.
Et puis c'est des adresses mail parfois qu'on capte comme ça à l'occasion d'un mail qui nous est envoyé.
Par exemple oui, donc en fait c'est potentiellement pour mettre en place ce nouveau système, il faudra de toute façon un travail véritablement d'information. Je pense que chaque syndic ne va pas faire du jour au lendemain appuyer sur le bouton et envoyer ses convocations d'assemblée générale. Donc il y a un vrai travail d'information préalable, je pense, qui doit être extrêmement, extrêmement bien formalisé et bien explicité. Et sur l'adresse mail, c'est vrai qu'on n'a pas, on en parlait tout à l'heure hors antenne, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'adresse d'identité ou d'adresse unique, je dirais presque étatique. Hein. Comme on a un numéro unique fiscal, France Connect au sein des impôts, on n'a pas le pendant en adresse mail. Ça pourrait potentiellement être demain.
On pourrait passer par France Connect.
Une idée, pourquoi pas, mais on a un vrai sujet de fiabilisation de ces données. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fournisseur d'accès, ou alors peut-être que les fournisseurs pourraient demain créer des adresses communes à des foyers pour gérer tout bon, le bien commun.
Il y en a des fois qui ouvrent une adresse mail famille.
Oui, famille, ouais, alors j'en ai pas vu beaucoup. Et je pense que dans notre
peut-être
base de données,
ça va se généraliser.
Mais au-delà de ça, au-delà de la problématique de l'adresse mail et de l'envoi dématérialisé, c'est un peu mon petit cheval de bataille à titre personnel. Je prêche beaucoup sur le sujet, c'est sur la manière dont on envoie, on crée et on fabrique nos convocations d'assemblée générale. Parce que c'est très bien d'envoyer en format dématérialisé. Simplement, aujourd'hui, on ne fait que dématérialiser une convocation d'assemblée générale de 30, 40, 60, 100, 150 pages. Et c'est vrai que recevoir, alors c'est très bien, c'est une manière dématérialisée, 150 pages dématérialisées pour pouvoir ensuite la lire et suivre en assemblée générale. C'est pas encore ce qu'il y a de plus efficient. Donc, je pense qu'à terme, il faudra véritablement.
Faudra qu'ils viennent avec leur tablette.
Réfléchir. Réfléchir. Alors, déjà, ne serait-ce que par la loi, est-ce qu'on continue toujours à envoyer une compilation de documents qui sont à peine lus? Est-ce que demain, on peut pas essayer de faciliter, finalement, le libellé de.
Oui,
le libellé
des sachant résolutions. Que sur les devis, je rappelle que déjà, la loi dit qu'on peut annexer les conditions tout essentielles. Hein, on n'est pas obligé d'annexer les devis, etc. Bon, moi, je pense qu'il va y avoir un peu de flottement là pendant un an.
Si je peux juste ajouter quelque chose sur ce sujet de l'adresse mail, quelle adresse mail utiliser, on a quand même un article du décret, l'article 65, qui indique que pour la notification, le copropriétaire doit indiquer au syndic son domicile réel ou élu. Et il indique également qu'aujourd'hui, si le copropriétaire a opté pour la notification électronique, il doit lui indiquer l'adresse mail sur laquelle envoyer cette notification. Là, on se pose souvent la question, est-ce qu'il y a besoin d'un décret d'application pour la mise en œuvre de la notification électronique généralisée, entre guillemets? A priori, non. Mais en revanche, on a quand même besoin de clarification et de modification du décret, ne serait-ce que pour le mettre en cohérence, d'ailleurs, puisque le décret parle encore du consentement express. Mais aussi, il faut absolument que cet article 65 soit adapté pour dire qu'il appartient au copropriétaire d'indiquer au syndic quelle est l'adresse mail sur laquelle il pourra lui faire une notification électronique, sachant que, évidemment, si le syndic n'a pas d'adresse mail du tout, il continuera à envoyer du papier.
Pierre-Edouard, sur le décret d'application ou modification du décret, parce que la loi ne dit pas attente d'un décret d'application.
Non, parce que le décret d'application existe, c'est le décret de 1967. Donc on ne va pas dire qu'il y a un nouveau décret qui doit être adopté, puisqu'il existe. Par contre, la modification, elle me semble indispensable, puisqu'aujourd'hui on a des dispositions légales qui se heurtent directement à un dispositif réglementaire contraire. C'est ce que Mathieu a dit. On a un texte qui prévoit que le copropriétaire donne son consentement et le cas échéant donne son adresse mail. Donc c'est contraire au principe nouveau de la loi. Donc là, il y a une discordance qui fait qu'il y a besoin d'une adaptation. Et je pense qu'on aura des difficultés dans un premier temps parce que, comme l'a dit Alexis, quelle adresse mail choisir? L'adresse postale, on la connaît, elle est notifiée. Alors, il faudra peut-être modifier non seulement le décret, mais aussi les textes du CCH, du Code de la construction et de l'habitation, pour que les notaires, au moment des mutations, donnent l'adresse mail élue du copropriétaire pour recevoir les notifications, parce qu'il va falloir un format officiel. Aujourd'hui, les syndics peuvent avoir des adresses mail, mais si les copropriétaires n'ont pas opté pour la notification électronique, ils ont une adresse mail, mais est-ce celle sur laquelle il faut notifier? Puis comme le disait Alexis, les couples, les indivisions, il peut y avoir une adresse générale qui est utilisée pour des communications ordinaires, mais qui ne sont pas des adresses qui permettront des notifications valables à chacune des personnes qui doivent recevoir la notification pour que ça produise des effets. Donc on n'est pas à l'abri de difficultés très importantes sur l'exécution du texte, surtout pour les syndics qui ont un petit peu anticipé les notifications électroniques et qui l'ont fait dès à présent pour la campagne d'Assemblée Générale en cours. Ça, c'est une des premières choses. Et c'est pour ça que, dans les commentaires, je crois qu'il faut rester assez prudent et attendre le dispositif réglementaire qui peut nous apporter beaucoup de précisions. beaucoup.
Est-ce qu'on est certain
notamment sur les mais je pense qu'il doit y en avoir un. Le décret de 67 doit forcément être modifié sur ce sujet-là. Les dispositions aujourd'hui sont contraires au texte de loi. Ça ne peut pas rester en l'état. Et par exemple, sur les modalités d'information que le nouveau syndic doit aux copropriétaires pour leur permettre d'exercer leur opposition à la notification. Là aussi, on va certainement avoir des précisions sur ces modalités-là. Est-ce qu'on le fait par lettre recommandée? Est-ce qu'on le fait par voie d'affichage? Est-ce qu'on le fait par simple information? On aura des précisions. Donc, il y a quand même des éléments à attendre. Et puis, il y a une réserve qu'il faut formuler. Moi, j'étais favorable à ce dispositif. J'avais pu déjà l'écrire, j'avais déjà pu le dire. J'étais favorable parce que je trouve que ça va dans le sens du temps. Ça va dans le sens, d'ailleurs, de tous les services de l'État qui ont créé l'identité numérique, qui ont créé France Connect, qui permettent la déclaration d'impôt en ligne, enfin, qui y obligent. Donc, ça va dans ce sens-là. Mais il faut quand même noter une réserve qui est pour les personnes qui sont dans la situation les plus difficiles. Il y a des associations de consommateurs qui ont relevé cette difficulté et elle est tout à fait véritable. C'est que les personnes qui sont dans une situation d'électronisme et qui, de manière peut-être un peu plus grave encore, sont dans une situation d'illettrisme, vont avoir beaucoup de mal, non seulement à comprendre qu'ils ne sont plus convoqués, mais qui ne sont peut-être plus convoqués parce qu'ils reçoivent par mail et qu'il faut qu'ils fassent une démarche administrative pour recevoir à nouveau les convocations.
Ils peuvent le donner par tout moyen, donc il suffit qu'ils fassent un mail.
Bien sûr, mais ça suppose déjà une compréhension d'un mécanisme qui peut être complexe. Et pour certaines copropriétés, je ne dis pas que le dispositif n'est pas bon dans sa généralité, mais je pense qu'il y a des zones dans lesquelles ce dispositif est un peu inadapté. Et peut-être que les syndics auront un rôle à jouer, pédagogique, pour faire plus que ce que le législateur impose
dernière
et pour
remarque,
accompagner ses copropriétaires.
Juste une toute petite remarque sur ce sujet important. Hein. Alors d'abord, dire que l'INSEE tient à jour des statistiques d'accès à Internet. Et aujourd'hui, d'après l'INSEE, on a plus de 93% de la population qui a accès à Internet. Et je pense qu'en matière de copropriété, les copropriétaires ne font pas baisser la moyenne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et Pierre-Edouard a absolument raison, il est impératif que les syndics, en l'absence d'adresse mail connue, continue à notifier en papier. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que une personne...
Pas le choix. Par défaut.
Oui, mais Pierre-Edouard disait éventuellement, ces copropriétaires ne recevront plus de convocation.
Bah si, par défaut.
Alors, je ne sais pas si le texte le permet ou pas, mais en tout cas, il faut totalement exclure cette hypothèse.
Ah oui, je me suis même pas posé la question.
Un copropriétaire qui n'a pas accès à Internet, bah, par définition, n'a pas d'adresse mail, je pense. Enfin, en tout cas, n'en a pas communiqué au syndic. Et évidemment, on continue à lui envoyer sa convocation en format papier à son domicile.
Oui, mais ce qui veut dire que le texte va trouver tout de suite une grande limite au principe, c'est que l'exception qui va être si le syndic n'a pas l'adresse mail du copropriétaire, il lui notifie papier, et donc tous les copropriétaires qui ne donneront pas l'adresse mail mettront en échec le principe qui deviendront donc plutôt une exception, plutôt résiduelle. Donc là, c'est encore une fois pour ça qu'on attend le texte du décret, parce que toutes ces précisions qui vont nous être données, elles vont véritablement modifier, induire la portée du texte.
Oui, là on va loin et c'est ça les As de la Copro, on va très loin dans le dans le dispositif. Je vous propose qu'on passe à la deuxième nouveauté dans notre ordre de présentation sur cette loi Habitat dégradé, la nouvelle saisie conservatoire. Le syndic va pouvoir saisir à titre conservatoire le compte bancaire du copropriétaire débiteur, à la suite d'une simple mise en demeure. Alors, je vulgarise, bien sûr, mais pour qu'on comprenne bien, c'est nouveau, c'est presque révolutionnaire, je ne sais pas, on va voir. Pierre-Edouard, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous faire un petit topo sur ce nouveau dispositif judiciaire ?
Oui, alors c'est un dispositif qui est assez intéressant, alors qu'il y a une portée limitée, il faut le dire tout de suite, je vais expliquer pourquoi, mais qui peut avoir un intérêt pour le syndicat des copropriétaires en ce qu'il offre une nouvelle garantie. C'est un atout supplémentaire qui est offert ici au syndicat des copropriétaires pour s'assurer d'un recouvrement. Alors, il faut être précis sur le terme parce qu'on va dire des charges de manière générale, parce que c'est l'appellation qu'on connaît, mais le texte prévoit des provisions, ce qui n'est pas strictement la même chose, je vais y revenir. Alors d'abord, le dispositif, il est intéressant. Moi, je trouve heureux parce qu'il aligne les droits du syndicat des copropriétaires sur les droits d'autres personnes, comme les bailleurs, qui pouvaient déjà procéder à des saisies conservatoire contre leurs locataires débiteurs sur le fondement de leur titre, c'est-à-dire du contrat de bail. Le syndicat des copropriétaires n'était pas autorisé jusqu'à présent et cette réforme, qui modifie l'article L511-12 du Code de procédure d'exécution civile, va nous permettre de faire comme les bailleurs. C'est-à-dire prendre une mesure conservatoire, par exemple une saisie sur le compte bancaire du copropriétaire, compte bancaire qui est la plupart du temps connu du syndicat des copropriétaires parce qu'on aura reçu un virement, un chèque, donc on a de bonnes indications pour retrouver le compte bancaire du débiteur, donc de faire une saisie conservatoire et ainsi de s'assurer d'un recouvrement plus efficace ultérieurement. Et le dispositif est très favorable parce qu'on n'a pas besoin de saisir préalablement le juge pour être autorisé à procéder à cette saisie. Et c'est ça le grand avantage de la mesure, bien sûr. Alors, le champ d'application, par contre, est un petit peu restreint. On peut le regretter parce qu'on aurait pu avoir l'autorisation de faire cette saisie pour les charges, en général. Là, on est autorisé à faire une saisie conservatoire uniquement au titre des provisions. Le texte le vise expressément. Il vise les provisions qui sont mentionnées à l'article 19-2. Et précisément au premier alinéa de l'article 19-2.
Donc les provisions de l'année en cours.
Et donc ce sont bien les provisions de l'année en cours, ce sont les provisions
du budget prévisionnel. Vous pensez que c'est fait exprès ou c'est une erreur ?
Je pense que c'est fait exprès, parce que le texte est précis. Je pense que c'est dommage, par contre, parce que peut-être là l'erreur, c'est une erreur d'appréciation, mais c'est pas, je pense pas une erreur de plume, parce que là il y a une vraie référence qui est faite, avec un mot qui est choisi. Je pense que c'est une erreur stratégique, mais c'est pas une erreur de plume. Et donc on vise bien les provisions, c'est-à-dire les provisions qui sont échues, celles qui ont déjà fait l'objet d'un appel de fonds et dont l'exigibilité est acquise, et celles qui sont non encore échues, c'est-à-dire celles qui sont à venir au titre du budget de l'année en cours, et dont on va pouvoir obtenir la déchéance du terme par la notification de la mise en demeure de l'article 19.
Y compris les provisions de travaux.
Y compris les provisions qui sont l'ensemble des provisions.
19-2 et 19-2, on a 14-1 et 14-2.
L'ensemble des provisions qui renvoient à 14-1.
Donc pas les provisions travaux, non. Alors
14-1, uniquement. Parce que c'est le premier alinéa de l'article 19-2.
Sur le nouveau,
ah oui, ça a été modifié.
Avec la renumérotation, il y a les deux.
Et donc, ce qui fait que sur ces sommes, on va être assez limité, on va pas pouvoir aller chercher l'antériorité. Donc, ce qui veut dire que quand il y a un passif important, là, on ne va pas pouvoir se garantir. Par contre, ce qui est intéressant dans le dispositif, c'est que ça aura, comme un peu le commandement de payer pouvait l'avoir, un effet comminatoire. Parce que si on met la main, parce que c'est ça, en fait, hein, la mesure conservatoire, c'est de mettre la main sur le compte, de bloquer les sommes sur le compte, de telle sorte que le débiteur, le copropriétaire, ne peut plus en disposer. Il est obligé de laisser cet argent. Eh bien, cet effet-là peut avoir un effet psychologique assez important et déclencher le paiement, comme on avait cet effet avec le commandement de payer. Si ça ne le fait pas, si ça n'est pas suffisant pour produire le paiement, à ce moment-là, il faudra introduire l'action en recouvrement des charges devant le tribunal compétent, donc de proximité ou judiciaire en fonction des sommes. Et dans ce cas, il faudra l'introduire dans le mois qui suit la prise de la mesure conservatoire, à défaut de quoi cette mesure tombera automatiquement. Donc il y aura une procédure à suivre, avec une certaine rigueur à suivre pour s'assurer de l'efficacité des mesures, mais on peut penser que c'est un dispositif assez intéressant, puisque c'est un outil supplémentaire qui est offert au syndicat des copropriétaires, à côté de l'outil traditionnel qu'on avait, qui est celle de l'hypothèque, pour garantir, là encore, la créance du syndicat pour des dettes plus anciennes.
Ok, merci beaucoup Pierre-Edouard. Donc on soit bien clair pour nos auditeurs, 14-1 aujourd'hui inclut les provisions travaux.
Oui.
Okay.
Le dernier alinéa, oui.
D'accord. Donc, on peut faire la saisie conservatoire.
Oui, parce que 14-2, ils l'ont modifié. 14-2, voilà. Maintenant, c'est le fonds de travaux. Voilà. Et donc, on n'a pas des provisions de fonds de travaux, mais on a des provisions de travaux.
Donc, ce dispositif s'applique pour la déchéance du terme des provisions budget prévisionnel et des provisions de travaux.
Mais a priori, pas du fonds de travaux.
Pas la cotisation.
Comme ça, on est bien clair. Bon, ça se veut assez dissuasif aussi. Hein. C'est peut-être aussi pour mettre un petit coup de pression aux copropriétaires débiteurs récalcitrants qui voudraient ne pas payer parce que c'est une forte tête, je ne sais pas. Bon, là, on bloque son compte. Ça va peut-être faire bouger un petit peu. Je vous propose qu'on enchaîne, hein, parce qu'on a pas mal de points à voir. Là, rapidement, par contre, Alexis, On va reparler du mandataire ad hoc. On en a parlé à la dernière émission pour savoir ce que c'était, à quoi ça servait, si c'était utile. C'est pas qu'on ait une grande passion pour le mandataire ad hoc, mais il y a quand même une nouveauté dans la loi du 9 avril sur le nouveau cas de déclenchement du mandataire ad hoc. Déjà rappelé le cas existant qui subsiste et le nouveau cas.
Oui, tout à fait. Donc, ils ont l'article 29C-1A a été modifié hein, sur les modalités de saisine du mandataire ad hoc. Puisque auparavant, donc avant la loi du 9 avril, ça n'était qu'à la clôture des comptes et avec le pourcentage à payer, hein, 25% pour l'ensemble des immeubles ou 15% pour les immeubles de plus de 100 lots, que le syndic devait informer le conseil syndical et saisir sur requête le juge aux fins de désigner un mandataire ad hoc. Donc ils ont conservé ces modalités de saisie.
Ça ne change pas.
Ça ne change pas. En revanche, ce qui a été rajouté, c'est que un autre cas, c'est... Alors, il y a toujours ce taux de 25% à la clôture du compte, mais ils ont rajouté ou en l'absence de vote de l'assemblée gérante. Oui, c'est où. Hein, c'est pas cumulatif et alternatif. C'est où en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins 2 ans.
Absence de vote.
Absence de vote. Sur l'approbation de l'Assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins 2 ans.
Donc ce n'est pas un refus d'approuver les comptes.
Ce n'est pas un refus d'approuver les comptes, mais c'est-à-dire que soit il n'y a pas eu d'Assemblée générale, soit le syndic faisait des Assemblées générales tous les 3 ans, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas une régularité extrêmement forte sur la tenue d'Assemblée générale. Alors c'est vrai que la manière dont c'est rédigé peut prêter à confusion, puisque
l'absence de vote
de l'Assemblée générale sur l'approbation des comptes, c'est pas parce que les comptes potentiellement ont été refusés que ça peut poser une problématique.
Si c'est refusé, ça veut dire qu'il y a eu vote.
Exactement.
Donc on n'est pas dans le cas de figure.
Non, pas du tout. Et la deuxième modification de cet article, c'est que effectivement, donc en l'absence d'action du syndic hein, dans le délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, le juge pouvait être saisi par plein d'acteurs différents. Donc en fait, ils ont rajouté des cas de figure où la saisine peut être opérée, rappelez-vous, hein, 15% des copropriétaires, les créanciers, un représentant de l'État, le maire, le président de l'établissement de l'EPICI, etc. Donc, un des critères qui a été rajouté, c'est toujours en l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes. Ils ont rajouté en l'absence de syndic ou en l'absence toujours de vote de l'Assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins 2 ans, le juge peut être saisi par l'ensemble des personnes que je viens d'énumérer. Donc en fait, voilà, ils ont rajouté quelques cas supplémentaires de faculté de saisine de ce mandataire ad hoc.
Ok, merci Alexis. Je veux pas qu'on s'étale de trop sur cette question parce qu'il y en a d'autres derrière qui sont un peu plus intéressantes, sauf si Mathieu, vous aviez un tout petit mot à dire.
Un point important quand même à noter pour nos confrères syndics, c'est qu'une des dispositions vraiment impactantes nouvelles...
Mais je voulais pas en parler de celle-là.
Ouais, mais alors on va le dire en deux mots quand même parce qu'il faut le savoir, si ça a échappé à certains, c'est que si... le syndic ne fait pas nommer le mandataire ad hoc alors que les conditions sont réunies, qu'il doit le faire, c'est une obligation pour lui, et que par malheur, le syndicat des copropriétaires finit par se retrouver en administration judiciaire, administration provisoire, parce que la situation s'est tellement dégradée que des mesures de redressement sont nécessaires. Si le syndic n'avait pas nommé le mandataire ad hoc, fait nommer le mandataire ad hoc, il s'expose à devoir prendre en charge les frais d'administration provisoire, tout ou partie. Et les frais d'administration provisoire, ça peut s'élever à beaucoup, beaucoup.
beaucoup
et pourquoi est-ce que le législateur a pris cette mesure? Je crois qu'on en a déjà parlé, hein, mais le mandataire ad hoc, aujourd'hui, n'est quasiment jamais nommé. Donc là, il va peut-être falloir changer un peu les habitudes et bien identifier au sein du portefeuille géré quels sont les immeubles qui vont vraiment vers des difficultés importantes et ne pas omettre de nommer le mandataire ad hoc, sinon on s'expose vraiment à des sanctions importantes.
Mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ouais, pour l'information et la pédagogie des syndics. Merci Mathieu. On enchaîne. Nouveauté également, Mathieu, je vous laisse la parole. Possibilité pour le syndic, pour le syndicat, de convoquer une deuxième AG pour une deuxième lecture à la majorité de l'article 24. Donc c'est une espèce de nouvelle passerelle, mais pour un cas de figure bien particulier, c'est pour les travaux d'économie d'énergie, enfin ceux de l'article 25 petit F, je crois. On ressuscite la deuxième AG en deuxième lecture. Elle avait été abandonnée par la loi Elan. On la ressuscite, mais partiellement. Ouais, franchement, expliquez-nous en deux secondes.
Franchement, je sais pas trop quoi dire. Effectivement, alors donc les travaux d'économie d'énergie sont soumis à l'article 25. Donc il faut, à l'occasion d'un premier vote, plus de la moitié des voix de l'ensemble du syndicat des copropriétaires. Si on n'obtient pas plus de la moitié des voix du syndicat des copropriétaires, mais qu'on a au moins 30, un tiers de vote favorable, on peut immédiatement procéder à un deuxième vote à la majorité simple des représentés. Donc ça, c'est, tout le monde connaît, c'est la passerelle de l'article 25.1. Et si on n'obtient toujours pas la majorité dans ce cas de figure, ou si on n'a pas réussi à réunir les 33%, on pourra reconvoquer une deuxième AG avec le même ordre du jour qui pourra se prononcer à la majorité de l'article 24. Donc effectivement, c'est l'ancienne deuxième lecture hein, qui existait auparavant sur beaucoup plus de sujets. Je ne sais pas quoi en penser, ça amène à nouveau de la complexité. Oui. Je ne sais pas comment font les jeunes gestionnaires pour s'y retrouver dans tout ça.
C'est une troisième passerelle en fait.
C'est, après c'est 25 pas vraiment une passerelle, après, c'est donc une deuxième lecture qui après être sortie dans un souci de simplification revient sur un sujet précis. Est-ce que ça va vraiment permettre de voter plus de rénovation énergétique? Est-ce que ça va être utilisé? Moi, j'en crois pas un mot. Si les copropriétaires ne souhaitent pas voter, si on n'arrive pas à réunir un tiers des voix sur un projet comme ça, je pense que c'est même pas la peine de s'acharner. On sent qu'on ne veut pas amener à l'article 24, à la majorité simple, le vote des travaux de rénovation énergétique et qu'on cherche à contourner l'obstacle en donnant plein de solutions.
Et en faisant de la demi-mesure et donc de la complexité.
Mais ouais, on complique la réglementation, on la rend illisible et pour les syndics et pour les copropriétaires. On va donner aux copropriétaires l'impression que on leur a demandé une fois, on leur a demandé deux fois, et ils n'ont pas dit oui, alors on a encore une troisième fois. Donc on va leur demander après, l'impression qu'on s'acharne. Enfin, moi je ne sais pas quoi en penser. Alors, à mon avis, ça n'aura aucun succès.
Je rappelle politiquement que notre association, la NGC, on avait fait passer en première lecture à l'Assemblée nationale un autre amendement qui était de passer directement à la majorité de l'article 24, les travaux de rénovation énergétique, parce que c'est dans le sens de l'évolution. Ouais. Les travaux d'entretien se votent déjà à l'article 24, et c'est parfois les travaux d'entretien des travaux d'envergure qui peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'était plus logique, plus simple. On fait qu'un seul vote, pas deux, et c'est beaucoup plus simple. C'était passé en première lecture à l'Assemblée nationale, et d'autres organisations s'y sont opposées pour imposer cette deuxième passerelle, cette nouvelle passerelle, cette deuxième AG qui, là je parle cette fois-ci en tant que gestionnaire, n'a jamais marché parce que personne n'a envie de revenir une deuxième fois pour se remobiliser les énergies. Trouver une date dans un calendrier déjà bien chargé, récupérer à nouveau les pouvoirs, récupérer les votes par correspondance. C'est des coûts aussi, une deuxième assemblée générale sur gros immeuble. C'est plusieurs milliers d'euros, une deuxième assemblée générale. Tout ça pour, au final, voter à l'article 24. Donc autant le faire tout de suite.
Oui, parce que même potentiellement, psychologiquement, c'est pas pour autant que 30 jours après, ce sera à peu près sous 30 jours ou sous 2 mois, que les esprits aient extrêmement bien évolué sur le sujet de la rénovation énergétique. Donc on pense que ça fonctionnera pas beaucoup.
Voilà, moi je pense aussi, et on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Mais au moins, vous avez l'information, les gestionnaires et les copropriétaires de cette nouvelle deuxième AG, nouvelle passerelle. D'ailleurs, certains gestionnaires étaient encore sur l'existence de la deuxième AG avant la loi Elan. On était encore en train de leur rappeler que non, c'était fini la deuxième AG. Eh bien voilà, qu'elle ressuscite partiellement. Donc je rappelle uniquement pour les travaux de rénovation énergétique, c'est important de le préciser, et pas pour la désignation du syndic, par exemple. Là, ça aurait été peut-être un petit peu plus utile. J'enchaîne. Pierre-Edouard, on a une nouveauté. Il y a un nouvel article 25-2-1. On est bientôt dans le code général des impôts.
On aura des nonnes.
On y est presque. Vivement la codification. Possibilité pour un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes. Moi, la question que je me pose, c'est quelle est la différence entre cet article 25-2-1 et l'article 25-b classique ?
Elle est ésotérique, je crois. C'est-à-dire que je pense que là, le législateur ou les personnes qui ont conseillé le législateur se sont posé beaucoup trop de questions. Mais on peut comprendre le raisonnement. Nous ne soyons pas... on ne va pas faire du tir sur ces personnes parce que le raisonnement n'est pas du tout imbécile. Mais je pense qu'il complique trop les choses. Le raisonnement peut être le suivant. L'article 25, aujourd'hui, il autorise des copropriétaires à demander à faire des travaux à leurs frais sur les parties communes. Et il les autorise pour faire des travaux d'amélioration. Et c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu ésotérique. Mais les travaux d'économie d'énergie... ne sont pas, il y a en tout cas un débat, ne sont pas toujours considérés comme étant strictement des travaux d'amélioration. D'abord parce qu'il y a certains travaux qui sont imposés par le législateur, puisqu'on nous dit qu'à l'horizon 2025 et 2028, il ne doit plus y avoir de bâtiments FEG. Donc ce sont des obligations légales qui ont été posées pour la rénovation énergétique. Donc, dans ce cas-là, on n'est pas tout à fait dans de l'amélioration, on est dans de l'exécution d'obligations légales. Donc on pouvait se poser la question de l'utilité, c'est-à-dire de l'application du dispositif 25B pour les travaux d'économie d'énergie. C'est sans doute pour ça que le législateur a adopté cette règle, mais qui crée un deuxième mécanisme d'autorisation de travaux aux frais d'un copropriétaire. Et le problème, c'est que peut-être que plus simplement, on aurait pu modifier 25B pour le préciser. Ça aurait été déjà plus lisible plutôt que de créer un nouvel article. Et puis, on aurait peut-être pu qualifier les travaux d'économie d'énergie qui figurent à l'article 25, eux aussi, après avoir été longtemps à l'article 24. Et ça avait été remonté à cet article de manière d'ailleurs un peu incongrue. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir voter cela. Mais moi, ce que je retiens de cette évolution, c'est qu'aujourd'hui, on a quatre règles de principe de majorité. On a deux passerelles, dont une avec des tiroirs, comme on vient de le voir sur le 25.1, deuxième AG, mais seulement pour les travaux d'économie d'énergie. Et on a au moins 45 dispositions dans la loi qui fixent des règles de majorité spéciales pour des décisions spéciales. Moi, je ne sais pas dans ces conditions comment un copropriétaire peut s'y retrouver, et même un professionnel, même averti, peut arriver à comprendre tous les mécanismes, d'autant que dans les règles de majorité, des fois on vote pour et des fois on vote pour ne pas s'opposer. Par exemple, les travaux pour les personnes à mobilité réduite, où là une personne peut faire une demande, le syndicat peut s'y opposer, mais seulement selon un motif légitime. Bref, les modalités de prise de décision en Assemblée Générale sont, au regard de ces textes, toujours plus complexes. Et à mon sens, c'est un vrai problème légistique qu'il faudra résoudre, soit par le biais de la codification, soit par une relecture à minima de la loi de 1965, qui initialement était très simple. On avait une règle de majorité qui était l'article 24, deux règles d'exception qui étaient 25 et 26, point. Et je pense qu'il faut y revenir.
Je suis désolé, je vois que la régie me presse pour qu'on abrège. Je propose qu'on enchaîne tout de suite. Alors, je voulais qu'on parle rapidement du prêt collectif, mais du coup, je vais simplement rappeler, moi, qu'il y a un nouveau dispositif sur le prêt collectif à l'article 26-4. Ou alors peut-être, Mathieu, si vous voulez, en deux mots, nous expliquer ce qu'est ce nouveau prêt collectif.
Alors, j'essaie de
à
le
adhésion
faire en deux mots.
Totalement collective. Et après, on enchaînera sur le SIC, parce que là, on est... vraiment pressé. Merci.
Ok, j'essaie de le faire en deux mots. Donc, tous les gestionnaires et la plupart des copropriétaires connaissent ce prêt collectif qui existait déjà, qui était très utilisé et qui permettait, moyennant une autorisation à la majorité simple de l'Assemblée Générale, à tous les copropriétaires intéressés d'emprunter dans le cadre d'un prêt souscrit par le syndicat des copropriétaires. Mais prêt entièrement facultatif, à adhésion facultative. Là, l'objectif, l'idée, c'est de permettre à l'Assemblée Générale de décider la souscription d'un emprunt réellement collectif, c'est-à-dire, là aussi, on inverserait le principe, un peu comme la notification électronique. Tous les copropriétaires y adhéreraient par principe, et puis le copropriétaire qui souhaiterait ne pas emprunter devrait se manifester et par dérogation...
Alors se manifester, il a un délai quand même. Hein.
Voilà, il a un délai, il a deux mois à compter la notification du PV pour se manifester, et surtout... très important, pour ne pas participer à l'emprunt collectif, il faudra qu'il ait versé la totalité de sa quote-part dans les 6 mois de la notification du PV. Très important, on n'a pas le droit de rentrer dans le détail, mais on le fera peut-être une autre fois. Mais dire qu'aujourd'hui, les banques ne sont pas prêtes à proposer ce produit, qui pourtant sera très utile dans deux cas, je l'ai dit très rapidement, je pense que ce produit sera utile dans deux cas, dans le cas des travaux de rénovation énergétique, parce que la copropriété aura la possibilité de souscrire un emprunt à taux zéro qui, en plus, avec des modifications fiscales, enfin du Code général des impôts, va permettre vraiment de couvrir tout le reste à charge pour tous les copropriétaires. Et donc là, la copropriété pourra vraiment souscrire un emprunt à taux zéro sur 15 à 20 ans pour tous les copropriétaires et leur éviter de sortir de la trésorerie pour la rénovation énergétique. On y reviendra certainement. Et puis un deuxième cas où ça va être très utile, c'est pour les copropriétés en réelle difficulté, où là, souvent, on a énormément de copropriétaires. Les travaux sont souvent très subventionnés, mais il y a quand même un reste à charge pour les copropriétaires dans ces immeubles en difficulté. Ce reste à charge est infinançable et souvent ils sont très nombreux et on a énormément de mal à obtenir leur adhésion individuelle. Donc dans ce cas-là, ce sera intéressant. La difficulté, c'est que les banques ne sont pas prêtes, d'abord parce qu'on attend un décret et qu'on ne sait pas dans combien de temps ce décret va sortir, hein, la situation actuelle.
La situation politique, effectivement, est assez instable.
Voilà, et puis ensuite, on a quand même un vrai sujet. Il y a une contradiction dans le dispositif, puisque le dispositif parle d'un cautionnement obligatoire du syndicat des copropriétaires, ce qui est logique, hein, c'est prévu dans tous les emprunts collectifs. Mais simplement, ce cautionnement obligatoire, tel que c'est écrit dans le texte, n'aurait pas vocation à être actionné si le syndicat des copropriétaires n'arrive pas à rembourser une échéance. Mais si un copropriétaire ne paye pas l'un des appels de fonds faits par le syndic pour rembourser l'échéance, pas autant dire que pour les banques aujourd'hui, ça c'est un bloquant. Oui. Voilà.
Donc, alors en résumé, comme nous l'avait dit Alexis, j'avais bien aimé votre formule, nous avions avant le prêt collectif à adhésion individuelle, nous avons maintenant le prêt collectif à refus individuel, mais les deux coexistent.
Et les deux coexistent,
oui. Les deux coexistent. Donc on attend fermement le décret, mais on ne sait pas quand il arrivera.
Parfait.
Et on attend fermement les banques sur ce.
Exactement. Et on n'a pas l'impression qu'elles se précipitent.
Elles attendent le décret.
Elles essayent. Beaucoup,
On attend tous le décret.
Elles essayent beaucoup.
Soit ça nous arrange bien.
Beaucoup sont volontaires, mais il n'est pas exclu qu'il y ait besoin même d'une petite adaptation du texte.
Sur la caution, parce que la caution, ce n'est pas la bonne sûreté. En fait, je pense que ce n'est pas la bonne sûreté qui a été choisie. Bon, ça, c'est un autre débat.
Je vous propose qu'on passe directement à la séquence politique.
Les As de la CoPro. La séquence politique.
Dans les nouveautés de la loi du 9 avril, nous avons la création d'un nouveau type de syndic, une nouvelle figure de syndic, le syndic d'intérêt collectif, on va l'appeler le SIC, S-I-C, le SIC. La question c'est, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce ? Pourquoi faire ? Alors là aussi on attend un décret, hein. Et là, celui-là, on l'attend avec impatience. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que les syndics de copropriété sont déjà, un, concernés, et puis deux, est-ce que ça va les intéresser ? Ça concerne aussi les organismes HLM. Alexis, c'est quoi le SIC ? Ça sert à quoi ? Je vois que vous rigolez.
On n'en sait pas. À ce stade-là, on ne sait pas grand-chose. On gère aujourd'hui des copros saines, la copropriété saine classique où tout se passe bien. C'est un syndic qui le gère. On a depuis la loi Allure, quand il y a des pré-difficultés avec un certain nombre de ratios qu'on a évoqués tout à l'heure avec le mandataire ad hoc, c'est le mandataire ad hoc qui gère.
Déjà, il intervient dans deux cas de figure.
Il intervient dans deux cas de figure. Je finis simplement, ouais, et puis après on reviendra. Et puis après, quand on a véritablement des immeubles, des vraies copropriétés en véritable réelle difficulté, on a l'administrateur provisoire. Et donc là, aujourd'hui, on a ce nouvel acteur, le SIC, qui va s'intégrer à la fois entre le mandataire ad hoc, éventuellement, et potentiellement est l'administrateur provisoire, puisque dans un cas, et je pense que le décret, de toute façon, nous dira les éléments, certainement hypothétiquement à la fin de la mission du mandataire ad hoc, le syndic d'intérêt collectif arrivera à gérer. Et dans le cas d'une copropriété en difficulté où il y a déjà un administrateur provisoire, l'administrateur provisoire pourra se faire assister de ce même syndic
comme
d'intérêt
collectif.
Comme
un zapiteur d'expert judiciaire.
Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que sur ce syndic d'intérêt collectif, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose que ce que nous dit aujourd'hui l'article 18.3. Hein. On nous dit simplement qu'il y a un agrément qui atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir pour les copropriétés faisant l'objet de toutes les difficultés ou pré-difficultés.
Donc c'est la préfecture qui va donner cet agrément ?
Certainement, oui, représentant de l'État, oui, dans le département, préfecture, pour une durée de 5 ans, préfecture. Mais on nous dit simplement entre les
deux... Sur quels critères, on ne sait pas encore.
On ne sait pas encore, donc ça, le décret, je pense, sera assez consistant et assez long pour le coup, pour bien expliciter le métier de syndic d'intérêt collectif. Là, à ce stade, on sait simplement que ce syndic, il est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement du 29-1A qu'on a évoqué tout à l'heure, et il peut également, à la demande d'un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.
Donc la copropriété en difficulté va payer un administrateur provisoire plus un syndic directeur et collectif, ou alors ils vont se partager les frais à deux. Pierre-Edouard, je vois que vous souriez aussi.
Non, mais je crois pas qu'il y ait un double paiement, parce que d'abord, aujourd'hui, on a un texte qui réglemente les honoraires des administrateurs judiciaires, et lorsqu'ils ont un assistant, en principe, lorsque tout
ils
va bien
sur leur
meilleur
part
des mondes, ils paient effectivement sur leurs honoraires, c'est prélevé. Que ce soit la pratique la plus courante, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, le texte est rédigé de cette manière-là. Je crois que le syndic d'intérêt collectif, enfin, on en discute un point de vue extérieur au rédacteur du texte, mais il me semble que l'idée, c'était aussi de contraindre un petit peu les bailleurs, donc les sociétés, les organismes HLM et les SEM, à prendre en main ce sujet des copropriétés en difficulté. Parce que le constat qui est fait, et c'est un constat qu'on peut faire quand on regarde par exemple l'association Caliesser, qui avait un but très intéressant, mais qui a encore du mal à recruter des syndics pour les amener à gérer des copropriétés en difficulté, même s'il y en a qui n'en franchissent pas, qui ont cette envie.
Oui, une quinzaine.
Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, le système ne permet pas de rémunérer de façon juste ces syndics. Et ce qui fait que le syndic, et ce n'est pas une critique, le syndic, c'est une entreprise, donc qui a besoin d'avoir un chiffre d'affaires et un résultat. Or, la gestion des copropriétés en difficulté, ça peut peut-être générer un chiffre d'affaires, et encore, c'est si les aides arrivent quand il faut, comme il faut, et un résultat, c'est plus compliqué. Donc, évidemment, une entreprise ordinaire, elle ne va pas avoir une grande appétence pour gérer les copropriétés les plus difficiles, les plus chronophages, les plus durs aussi pour la gestion de leur personnel, parce qu'ils vont
sur
être
le
confrontés
plan humain,
sur le plan humain à des situations émotionnellement difficiles, stratégiquement difficiles, etc.
Parce que les HLM, donc, n'ont pas besoin d'agrément.
Non, eux, ils sont présumés.
Présumés.
Ils sont présumés
ils sont
être d'intérêt collectif.
D'office.
Ils sont SIC d'office, voilà.
Ils sont contents, ils doivent être contents.
Et alors, ils ne sont pas beaucoup, justement, parce que, en fait, ce qui se pressent, c'est qu'on va, l'État va leur demander de s'investir dans ces missions, faute d'avoir trouvé des partenaires privés pour le faire. Et donc, le fait de les avoir présumés, c'est déjà un peu de leur annoncer les choses. Et c'est de dire, écoutez, si on ne trouve pas autre chose, d'autres personnes, c'est vous qui allez être désignés pour aider, assister ou reprendre. Parce qu'il y a aussi cette hypothèse de la reprise de la copropriété après administration judiciaire. Et on attend le décret, mais ce décret pourrait proposer que le syndic qui est désigné post-administration judiciaire pour exécuter le plan, ça doit être un SIC. Ça n'est pas quelque chose d'exclu. Parce qu'il sera plus sensibilisé aux problématiques, il en aura l'habitude, etc. Donc on peut avoir cette mobilisation de ces forces HLM et SEM dans les territoires pour pallier l'absence d'autres personnes qui veulent exercer
les
fonctions.
Parce que quand on est syndic, on ne se précipite pas sur ce genre d'immeuble en souffrance. Il y a déjà une pénurie de syndics, donc on peut se permettre de choisir nos immeubles. Moi, personnellement, je refuse un certain nombre d'immeubles chaque année, y compris des immeubles qui n'ont pas de problème. Je ne vais pas aller me précipiter sur un immeuble en souffrance. Celui qui pourrait être demandeur, c'est le syndic qui vient de se créer, mais lui, il a besoin de rentrer des affaires. Mais est-ce qu'il est compétent pour être syndic d'intérêt collectif ?
Pas forcément le personnel, les équipes, les compétences.
Oui,
alors, on se tourne peut-être vers les groupes. J'imagine que les Crédits Agricoles, les Foncia vont créer une branche SIC spécialisée dans les copropriétés en souffrance.
Pour l'instant, ouais, c'est pas forcément à l'ordre du jour. Mais de manière plus générale, ça pose quand même la question du vrai suivi, je dirais un suivi peut-être plus strict financier de tous les immeubles que l'on gère aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors moi je suis très attaché à l'analyse un petit peu de l'ensemble des immeubles que l'on a en portefeuille. C'est vrai qu'on aurait dû peut-être depuis la loi Allure, hein, avec la création de ce mandataire ad hoc, être peut-être un peu plus aller un peu plus dans le détail de la situation financière qui est présentée à l'Assemblée Générale, de toutes les Assemblées Générales que l'on fait. Aujourd'hui, c'est pas véritablement fait. On n'a pas... Effectivement, on a des annexes qui sont formalisées depuis une vingtaine d'années, mais on n'explique jamais, hormis la régularisation de charges, alors elle est créditrice ou elle est débitrice, ça c'est à peu près les éléments qui ressortent, mais on ne va pas plus loin alors qu'on a tous les éléments. Analyser l'annexe 1, l'annexe 2, pour déterminer véritablement si, bah, si l'immeuble est en vraie bonne santé financière.
Ce que vous voulez dire, Alexis, c'est que le SIIC, finalement, doit être, le rôle du SIIC doit être endossé par tous les syndics dans le cadre de leur mission.
Je suis même avant le rôle du SIIC. C'est surtout ce sujet de copropriété en pré-difficulté, d'analyse financière plus poussée pour qu'effectivement, d'une copropriété saine, on puisse véritablement suivre la vie financière par des scorings. C'est des scores.
Des indicateurs.
Il y a des indicateurs clés. On peut créer quelques indicateurs clés.
À l'occasion de la présentation. Effectivement, le syndic aurait...
Et en fait, nous, même pour tous les immeubles qui vont bien, parce qu'heureusement, il y a 540 000 immeubles aujourd'hui au registre, heureusement qu'il y en a... La majeure partie est en bonne santé financière. Mais pour qu'effectivement, il y a un suivi, même au titre après, auprès des pouvoirs publics, un vrai suivi d'anticipation, je cherchais le mot, pardonnez-moi, d'anticipation d'une difficulté. Alors, parfois, elle sera passagère, mais parfois, la problématique sera beaucoup plus profonde, mais que l'on puisse véritablement mieux informer
plus dans la prévenance. Demain, vous devez faire une offre pour un immeuble en difficulté, alors, sachant qu'en plus, vous allez peut-être devoir payer l'administrateur provisoire. Vos honoraires, c'est quoi ? C'est x2, x3 ?
Ouais, c'est la difficulté. C'est pour ça qu'il y a si peu de candidats à la gestion d'immeubles en réelle difficulté. Pierre-Edouard l'a très bien dit. On va y passer beaucoup de temps pour un niveau d'honoraires qui, de toute façon, ne pourra pas être x2, x3, puisque les copropriétaires ne pourront pas se le permettre. Et donc, les syndics professionnels sont très réticents à gérer ce type d'immeuble. Pour moi, ce label de syndic d'intérêt collectif, c'est très vertueux d'inciter les syndics à se former, de reconnaître cette formation et cette compétence. Mais je ne pense pas que ça, en l'état, ça incite plus les syndics professionnels à s'intéresser à ce type d'immeuble. La solution serait peut-être d'améliorer les aides existantes à la gestion. Il existe des aides dispensées par l'ANA qui permettent aux syndics d'être rémunérés directement.
Et l'ANA voudrait que les collectivités locales participent à l'effort.
Alors si ces aides sont améliorées, évidemment là ça incitera plus les syndics à y aller. Et là je pourrais très bien comprendre que l'État qui verse des subventions exige en contrepartie que le syndic à qui les subventions sont versées soit formé et fait preuve de ses compétences, et finalement est reçu un agrément de syndic d'intérêt collectif. Là, on peut comprendre le sens que ça aurait. Maintenant, imposer que des immeubles en difficulté soient gérés par un syndic d'intérêt collectif, alors qu'on n'a déjà pas de syndic
classique
d'intérêt collectif ou pas qui s'y intéresse, ça n'a pas facilité les choses, je pense. Donc on sent qu'il y a une idée derrière, il y a une idée d'inciter... je crois qu'il faut attendre la suite.
Mais qu'elle n'est pas aboutie.
Faut attendre la suite parce que ce sera ou très bien ou un coup d'épée dans l'eau.
Dans la Genèse, on parlait de syndic d'intérêt général. C'était les élus de pleine commune, du 93, de Marseille, qui voulaient... Alors on sent que le pouvoir public, la puissance publique, de plus en plus sur ces immeubles-là en tout cas, veut mettre la main et se servir du syndic comme d'un bras armé, un instrument. Demain, finalement, autant leur dire créer directement un syndic public. Ça ira plus vite, Pierre-Edouard. Oui, un syndic de droit public, des nouveaux fonctionnaires.
Je crois que c'est l'antichambre. Il y a une forme d'antichambre à ce dispositif, c'est-à-dire qu'en allant chercher des organismes HLM et des SEM, on va chercher des organismes opérationnels qui ne sont pas des organismes stricto sensu publics, mais qui s'inscrivent dans cette logique, qui gèrent des biens pour la collectivité, l'intérêt collectif, justement, des bénéficiaires. Et donc, on change d'ailleurs de vocabulaire. Quand on passe auprès de la société, on ne parle pas de client, on parle de bénéficiaire. Donc, toute la logique est différente. Et finalement, c'est cette volonté de créer, un bras armé de la puissance publique. Mais encore une fois, je crois qu'on peut tout à fait le comprendre. D'abord parce que les syndics n'ont pas cette culture... des dispositifs publics. On avait une discussion dans le cadre de tout cela avec l'ANA, CalDISR, etc. On parlait des... sans trahir de secret, mais quand on parle des aides, la question des aides se pose d'abord dans les montants, mais après même dans les modalités de versement. Pour obtenir les versements, il faut remplir un certain nombre de papiers, parce que la France est très administrative, et on a des financements à terme. Mais c'est un fonctionnement comme dans des marchés publics. Et en fait, les syndics n'ont pas cette culture non plus du marché public, du comptage du temps, des prestations pour justifier de la rémunération qui sera à démontrer pour l'obtenir à terme. Et donc, il y a un choc culturel aussi entre les dispositifs publics et la façon dont des syndics entreprises privées ont ordinairement l'habitude de gérer des immeubles. Et donc, le fait de passer à un autre système avec des organismes qui ont la culture du dispositif public dans la gestion, bah, c'est mettre aussi en adéquation les organismes d'État qui interviennent, les pouvoirs publics et les organismes
mais
de gestion.
Mais les HLM, inversement, n'ont pas la culture du syndic. Il y a un quart des HLM.
Non, mais ils ont la culture de l'administration.
Mais l'administration, parce que c'est vrai que parfois, les syndics, qui, en parlant avec ceux qui en font un peu, hein, qui gèrent des copropriétés en difficulté, c'est vrai que les aides arrivent parfois 6 mois, voire 12 mois... 12 mois après.
Oui, donc il faut avoir les reins solides, il faut avoir du personnel compétent et motivé.
Ceci dit, ça ne veut pas dire que les organismes HLM et les SEM soient extrêmement satisfaits de la situation. Parce qu'ils ont déjà beaucoup de travail, ils ont déjà beaucoup d'immeubles à gérer avec des problématiques et ça va leur en ajouter. Et donc ils ne sont pas à ce jour parfaitement heureux de la situation. Ça a pu être dit d'ailleurs au colloque qui avait été organisé par Caliesser à l'Assemblée nationale. Il y a quand même une grande prudence de la part de ces organismes vis-à-vis de ce dispositif. Mais je ne suis pas sûr qu'à la fin, ils aient le choix. Mais parce qu'il n'y a pas d'option. Aujourd'hui, le législateur n'a pas tellement d'options. Parce que même ce que disait Mathieu, même si on met des aides en plus, je pense que la culture, le choc culturel qui existe est déjà très important, au-delà de la rémunération. Et puis après, même en donnant des moyens, aujourd'hui, ce qu'on voit, mais on ne va pas reparler, parce que là, ça nous emmènerait trop loin en temps, mais des problématiques de personnel auprès des syndics. Mais pour gérer un immeuble en difficulté, il faut plus de monde que pour gérer un immeuble ordinaire. Et donc, même avec beaucoup de moyens financiers, je ne suis pas sûr qu'il y ait les moyens de personnel. Or, les sociétés, aujourd'hui, les organismes HLM, arrivent à avoir un peu plus de personnel, c'est pas dire que ce soit formidable, mais ils ont un peu plus de personnel par immeuble que les syndics, entre guillemets, ordinaires. Et ça aussi, ça joue. Et c'est au-delà de l'argent. C'est de la capacité à mobiliser une force pour s'occuper d'une situation qui est tout à fait extraordinaire.
Alors peut-être on pourrait partir sur d'autres pistes. Moi, personnellement, je suis un petit cabinet indépendant. Si j'étais payé deux fois plus, si j'avais les mêmes pouvoirs que l'administrateur judiciaire... Non, mais il y a ça aussi. Sur ce genre de copropriété, il faut qu'on ait un peu plus de coudées franches pour pouvoir imposer les décisions type saisie immobilière. Je peux la décider moi-même et pas passer par l'Assemblée générale. D'ailleurs, est-ce que je tiens mon mandat de l'Assemblée générale ? Peut-être que je pourrais le tenir du préfet ou du juge. À ce moment-là, je deviens un administrateur judiciaire. Mais dans ces conditions-là, peut-être que je prendrais ce genre d'immeuble. Mais là, clairement, je n'y vais pas.
C'est là où est toute la difficulté, parce qu'il y a un jeu d'équilibre qui doit conduire à garantir les droits des copropriétaires et en même temps à trouver un système qui soit fonctionnel. Et donc, évidemment, on pourrait basculer dans un système tyrannique où on dit... Même l'administrateur judiciaire n'a pas tous les pouvoirs. Même cette personne désignée par le juge ne peut pas tout décider. Donc, et quand il peut prendre certaines décisions, comme une scission, par exemple, il faut qu'il soit autorisé. Donc, il y a quand même beaucoup de jalons. Et justement, c'est ça aussi qui fait défaut peut-être au syndic ordinaire, c'est cette capacité, mais on ne lui reproche pas. C'est parce qu'il n'y est pas confronté tous les jours, il n'en a pas l'habitude. C'est se confronter à le dialogue que les puissances publiques exigent, collectivités territoriales, financeurs, etc., qui est un dialogue particulier avec une culture particulière, et puis tous les dispositifs qui sont extrêmement complexes, à la fois publics, donc tous les plans qui peuvent exister, plans de sauvegarde, peu importe, et puis tous les dispositifs de la loi de 65 sur les copropriétés en difficulté, qui ne sont pas maniés de manière habituelle par les syndics, donc qui n'en ont pas connaissances et qui ne savent pas bien les mettre en œuvre. Et c'est normal, c'est pas leur métier ordinaire. Donc c'est tout ça qui explique que, je pense, aujourd'hui, les législateurs se tournent vers autre chose. Mais pour moi, c'est pas une concurrence, c'est pas une difficulté, c'est juste pas le marché habituel des syndics, et pourtant, on a un grand besoin en France de répondre aux difficultés qu'on rencontre.
Bien, on a tout dit sur le SIC. Alors l'avantage, c'est qu'on a vu qu'on attendait pas mal de décrets. Ce qui veut dire qu'on a de quoi faire pour nos prochaines émissions, puisqu'on va pouvoir revenir sur le SIC dès qu'on aura le décret.
Si le décret sort, alors je veux pas être médisant ou rabat-joie, mais si le décret sort, il y a quand même quelques décrets de la loi Allure, on s'en souvient, qui sont jamais sortis. Il y a une nouvelle, très certainement majorité, qui va arriver. On pourra reparler du DPE aussi. Enfin, il va y avoir beaucoup de changements. D'ici là, je vous souhaite un bel été. Mathieu Mialaret, merci encore. Je rappelle que vous êtes directeur métier ADB, syndic chez Foncia.
Merci Mathieu. À bientôt Gilles.
Alexis, responsable administration de biens syndic chez Crédit Agricole Services Immobiliers, Cassim.
Merci Gilles, à bientôt.
Bel été. Vous avez déjà la chemise blanche, ça y est, il fait chaud aujourd'hui, le soleil est enfin arrivé. Pierre-Edouard Lagrelet, avocat au barreau de Paris et de Bordeaux. Vous irez à Bordeaux aussi cet été, un peu profiter.
Comme tous les Parisiens, je vais quitter Paris le 13 juillet.
Voilà, exactement. Merci à tous pour votre fidélité. Prochaine émission, on récupère Sabrina et je vous souhaite un bel été, une bonne journée à tous. Bye bye, ciao.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.